Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour à vous Claire Sarvajan.
C'est l'heure de la marne de l'histoire.
Oui, on va parler d'une affaire à double, triple, quadruple fond qui accompagne la nuit de cristal.
C'est donc si passionnant l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
Greenspan, l'homme qui tua Vom Rath.
Je vous prie de patienter un instant. Je vais voir si son excellence peut vous recevoir.
Ja, rein.
Herr Vom Rath, da steht ein Mann, der offenbar wichtige Dokumente übergeben muss. Monsieur Greenspan, quelqu'un va vous recevoir. Herr Vom Rath, Ihr Besucher.
Nous sommes le 7 novembre 1938, l'ambassadeur du Reich à Paris n'est pas dans son ambassade. Les procédures de sécurité ne sont visiblement pas ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Un gamin de 17 ans, dont le nom imprononçable en forme de cascade de consonnes aurait dû intriguer, rejoint très facilement le bureau du troisième secrétaire, Vom Rath, est là-bas. Ce n'est pas la première fois qu'un représentant du nazisme est victime d'un attentat à l'étranger. Deux ans plus tôt, en Suisse, Wilhelm Gustloff avait pareillement été abattu. Mais en novembre 1938, les nazis saisissent le prétexte pour déclencher le plus grand pogrom qu'ils aient jamais programmé. C'est dès le 10 novembre, la nuit de cristal, des dizaines de synagogues détruites, des milliers de magasins juifs ravagés, des dizaines de milliers de déportés. On imagine le sentiment de responsabilité qui a dû accabler le jeune Greenspan. Devenu une personnalité connue du monde entier, sa défense lui échappe. En même temps, sa détention lui paraît sans fin. Nous sommes après Munich et le gouvernement français veut croire encore à un modus vivendi avec Hitler et un procès l'embarrasserait. Quand la guerre vient, ce n'est pas non plus le sujet du moment. En juin 40, les Français lâchent Greenspan dans la nature. Pourquoi les Allemands qui le récupèrent ensuite ont-ils traité le jeune homme en prisonnier de choix, puisqu'il semble bien qu'il ait survécu jusqu'à leur chute finale, peut-être jusqu'en 1945.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Corinne Chaponnière, bonjour.
Bonjour.
Historienne binationale.
Oui.
C'est-à-dire
Suisse et canadienne.
Voilà. Vous publiez chez Albin Michel un livre extrêmement documenté. Vous m'avez recommandé de dire qu'il était bien. C'est fait.
Les
quatre coups de la nuit de cristal. Alors nous sommes à l'automne 1938. Je vous propose qu'on commence cette émission pour décrire le climat non loin de la frontière suisse. Nous sommes à Évian. Tout le monde se souvient de la capitulation de Munich de septembre 38, mais personne ne se souvient de la conférence internationale de juillet 1938 qui a consacré l'abandon par les puissances du monde, des réfugiés qui cherchaient à fuir les dictatures de plus en plus nombreuses en Europe.
Je vous adresse à tous mon salut, non seulement à mes collègues du comité intergouvernemental, mais à la presse.
De la conférence d'Évian de juillet 1938 ne subsistent que quelques rares minutes d'images d'actualité.
À l'heure où nous nous réunissons, des millions de gens sont de fait ou virtuellement sans pays.
Avant qu'elle soit là, il a été très fortement souligné que l'autorisation d'immigrer ne devait être accordée qu'aux étrangers qui ne sont pas considérés comme indésirables.
En cette année 38, le sort des réfugiés juifs allemands et autrichiens ne doit en aucun cas perturber les tentatives diplomatiques pour éviter un nouveau conflit majeur.
On ne peut attendre d'aucun pays à population dense qu'il accepte des personnes privées de leurs moyens de subsistance.
Fonctionnaire à la Société des Nations, juriste, diplomate, responsable de la sûreté, des douanes, de l'immigration. Les représentants des 32 délégations présentes à Évian doivent affronter une situation humanitaire inédite.
Un documentaire de Michel Vullermet qui est titré justement « La conférence de la peur ». C'est dans ce moment tragique, 1938, que la famille Greenspan, qui était une famille de juifs polonais installée depuis longtemps à Hanovre, se débat un peu comme une abeille contre la vitre.
Oui, tout à fait. La famille Greenspan est installée depuis 1910 déjà à Hanovre et leur fils Herschel naît en 1928. et 1921, pardon. Et il assiste évidemment à la montée du nazisme, à ces persécutions qui se multiplient. Il supporte extrêmement mal cette situation et en 1935, il veut partir pour la Palestine. Malheureusement, le service d'immigration le trouve trop fluet, trop jeune, et en désespoir de cause, il part pour la France, où il se rend chez son oncle et sa tante qui habitent.
Il loge chez son oncle et sa tante qui sont tailleurs, qui tiennent la maison Albert.
Exactement, à Paris. Et là, alors il rend des petits services, et puis surtout il essaye de régulariser sa situation parce que, pour une raison qu'on ignore d'ailleurs, il est entré clandestinement par la Belgique en France, donc il est en attente de régulariser sa situation.
Et avant même la conférence d'Évian, le début 38 est fatidique pour lui, lui sont refusés les papiers français et il va vivre de plus en plus dissimulé dans une chambre de bonne. Et
exactement, apparemment la décision est prise exactement au moment de la conférence de juillet, mais pour une raison également qu'on ne connaît pas. On lui notifie son expulsion immédiate le 15 août et à partir de là, le 15 août 38, donc, et à partir de là, il se cache dans un grenier de peur de se faire expulser manu militari.
Il apprend fin octobre 1938 que ses parents restés en Allemagne ont été refoulés jusqu'à la frontière polonaise et qu'ils sont maintenant du côté polonais, mais parqués par le gouvernement polonais, qui les juge évidemment indésirables.
Oui, exactement. C'est une situation vraiment extrêmement douloureuse pour 12 ou 15 000 juifs polonais, ou plus exactement des Polonais installés en Allemagne, mais qui sont en énorme majorité des juifs, que l'Allemagne a expulsés, mais que la Pologne ne veut pas non plus. Du coup, ils se retrouvent dans cette zone frontière où ils ne peuvent plus retourner en Allemagne, mais ils ne peuvent pas entrer en Pologne. Et Herschel Greenspan apprend ça le 3 novembre par une carte postale de sa sœur et entre dans un désespoir profond qui le conduit 4 jours plus tard aux portes de l'ambassade d'Allemagne à Paris.
Alors, dans cette ambassade, il va assassiner le troisième secrétaire, Vom Rath, dont vous reconstituez parallèlement dans votre livre les quatre coups de la nuit de cristal, l'itinéraire. Ils n'ont pas beaucoup de points communs, enfin peut-être en découvrira-t-on de supplémentaires au long de l'émission. Il y en a un, ils sont de santé fragile.
Exactement. Greenspan a passé un certain temps à l'hôpital lorsqu'il était à Paris. Il a des problèmes d'estomac, de digestion. Il est extrêmement nerveux, apparemment. Quant à Vom Rath, il vient de rentrer de Calcutta, où il était en poste en 1937, et il a passé les deux tiers de son poste à se soigner. Il est de santé extrêmement fragile également, et il vient de faire 6 mois de sanatorium en Forêt-Noire avant de prendre son poste à Paris.
Les coups que lui porte avec un revolver le 7 novembre 38 à l'ambassade, le jeune Herschel Greenspan, ne vont pas le tuer de suite, mais la tuberculose qui se développait chez lui a peut-être contribué à rendre très difficile son salut. À la police, qu'est-ce qu'il dit, Greenspan? Parce qu'il se laisse arrêter aisément, il arrive au commissariat des Invalides, dites-vous.
Oui, il se laisse arrêter très très facilement parce qu'il attend, il semble même attendre dans le bureau de Vom Rath de se faire arrêter. Et il dit deux choses à la police française. Il dit d'abord qu'il a voulu faire un coup d'éclat pour rendre attentif le monde, la planète au sort que Hitler et les nazis réservent aux juifs en Allemagne. Et deuxièmement, il dit que ce qui a déclenché sa volonté d'agir est l'expulsion de ses parents hors d'Allemagne dont il vient d'apprendre la nouvelle.
Vom Rath finit par mourir, plus ou moins bien soigné. Vous discutez assez longuement de cette question. Et ses obsèques ont lieu à Paris, dans un grand déploiement de pompes, le 12 novembre.
À Paris, les obsèques de M. Vom Rath, conseiller de légation à l'ambassade d'Allemagne en France, sont célébrées en l'église luthérienne de la rue Blanche. M. Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, représente le gouvernement français.
À travers toutes les villes et tous les villages de sa patrie rhénane, le train spécial emmène le combattant mort. Animé de l'idée nationale socialiste, des milliers d'hommes et de femmes ont rendu un dernier hommage silencieux. Dans la Rheinhalle de sa ville, de Düsseldorf, avec les honneurs, le Führer et le peuple allemand saluent le martyr du nouveau Reich. Mon cher partisan mort, fidèle, debout, nous rendons hommage à notre compagnon mort, le conseiller de légation Ernst von Rath. Tombé à l'étranger pour la résurrection de l'Allemagne. Les esprits des héros et leurs noms vivront éternellement comme un legs sacré à l'histoire de notre peuple. C'est Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, qui vient de parler.
Ce discours au dernier havre de Von Rath date du 16 novembre. Les obsèques à Paris avaient eu lieu 4 jours auparavant. La nuit de cristal avait précédé les obsèques. Monsieur Georges Bonnet, le germanophile et très distingué ministre des Affaires étrangères français, aurait peut-être pu s'apercevoir que il y avait eu combien de synagogues, peut-être 200 détruites et brûlées.
Oui, en tout cas une centaine le jour même, une centaine brûlées et détruites en plusieurs centaines, certainement.
Et puis, les magasins pillés et les déportations.
Oui, c'est ça. Dans la nuit du 9 au 10 novembre et dans les quelques jours qui ont suivi, 30 000 hommes juifs, le plus souvent dans la force de l'âge, le plus souvent fortunés, ont été arrêtés et envoyés en camp de concentration pour y rester plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Ils n'ont été libérés que sur la promesse expresse et écrite qu'ils quitteraient l'Allemagne et qu'ils n'y remettraient plus jamais les pieds de leur existence.
On imagine cette responsabilité qui doit peser sur les épaules de ce gamin de 17 ans dans la cellule française où il est maintenant enfermé. En plus, son oncle et sa tante ont été mis en prison parce qu'ils avaient... Ça devait déjà s'appeler le délit de solidarité, c'est une formule française,
oui.
Vous savez, Corinne Chaponnière,
oui.
Parce qu'ils avaient hébergé un individu sans papier. Alors, il est connu maintenant du monde entier, auquel il écrit d'ailleurs.
Oui. Il a des avocats qui s'occupent de lui. Au départ, on avait nommé 2 avocats qui n'étaient pas assez connus quand on a tout d'un coup découvert l'envergure que prendrait cette affaire. On s'est cotisé, en particulier aux États-Unis. On a fait une collecte qui a permis à Herschel Greenspan d'avoir Vincent de Moreau Giafferi comme avocat.
Parce que de l'autre côté, du côté de la partie civile allemande, il y a Maurice Garçon.
Exactement.
Pas rien non plus. Et puis il y a l'inénarrable docteur Grimm, qui est le jurisconsulte nazi,
qui
vient sans arrêt à Paris border Maître Garçon.
Oui, bordé de très près.
Oui. Alors, il va rester en détention provisoire très longtemps. Parce que M. Bonnet imagine qu'on peut signer un texte de déclaration d'amitié avec Ribbentrop.
On le reçoit
au mois de décembre avec de grands égards. Enfin, un procès, ce serait quand même assez embarrassant, au fond, pour les Français. Et puis, quand vient la guerre, vous racontez ça fort bien, la perspective du procès s'éloigne. Et le voilà parti avec les prisonniers dans l'exode, le petit Herschel Greenspan. Il avait demandé à être engagé dans l'armée française.
Oui, il avait, mais personne n'en avait tenu compte.
Absolument. Et il se retrouve au mois de juin à Bourges. Et là, les Allemands vont survenir. Il embarrasse de plus en plus le préfet, le procureur, le directeur de la prison, le gardien-chef.
Oui, monsieur le préfet. Oui, c'est entendu. Bien sûr, monsieur le préfet. J'ai compris. Oui, ni vu ni connu, c'est bien ça. Le jeune homme n'est jamais venu à Bourges. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. Et je ne vous ai jamais téléphoné. Cela va de soi.
Sans l'initiative d'un préfet et d'un procureur anti-nazi, Herschel aurait sûrement été rattrapé à la prison de Bourges par le commando lancé sur ses traces.
Est-il déjà enregistré?
J'ai pas encore eu le temps, mais je compte bien le faire.
Écoutez-moi, monsieur le gardien-chef, surtout ne l'enregistrez pas. Vous m'avez bien compris.
Oui, monsieur le procureur.
Alors faites-le sortir immédiatement et puis conduisez-le vers Toulouse par Châteauroux. Et ainsi la France saura sans aucun doute un jour se souvenir de votre geste.
Oui, monsieur le procureur.
Nous utilisons ici un documentaire de Joël Calmette et Robert Badinter. Il est lâché dans la nature, mais on va le retrouver en prison à Toulouse.
Oui, et... pour vous dire la vérité, je n'ai jamais cru quand je me suis intéressée à l'affaire et que j'ai découvert que c'était lui qui se présentait de prison en prison et chaque fois on le relâchait parce que évidemment que ça embarrassait horriblement les directeurs de prison d'avoir un prisonnier si encombrant, on le relâchait.
Avec les Allemands qui arrivaient.
Et devant l'arrivée des Allemands, on le relâchait systématiquement et c'est lui qui refrappait à chaque prison. Et je me suis dit que ce n'était pas possible. Et finalement, je me suis rendue à l'évidence que c'est bel et bien lui qui retournait en prison parce qu'il voulait son procès. Sinon, tout
son
ce qu'il avait
en
fait.
France.
Oui, bien sûr, il voulait être jugé en France pour redire pourquoi il avait agi. Sinon, tout ce qu'il avait fait n'aurait servi à rien.
Oui, mais les Allemands, eux, ils voulaient qu'il soit dans leurs mains.
Oui.
Et ils ont fait des pieds et des mains pour cela. Ils ont fait emprisonner le procureur, celui qui avait donné cet ordre de libération.
Hein. Oui, ils ont tout simplement pris un otage. Ils ont même pris deux otages. On ne parle que du procureur, mais je tiens à souligner qu'il y avait aussi le directeur de prison qui ont été pris en otage pour les échanger contre Herschel Greenspan.
Alors le voilà maintenant à la fin de juin 1940, entre les mains de ses ennemis qui entendent se servir de lui et le présenter comme celui qui, à l'instigation de la juiverie internationale, a tiré le premier coup de feu de la guerre et agressé dès 1938 l'Allemagne nazie qui était si pacifique. Et maintenant, ce n'est pas une rupture d'ambiance, comme les apparences le montreraient d'un premier abord. C'est un apport supplémentaire pour présenter les hypothèses que vous balayez dans votre livre. Voici une chanson interlope de cette époque. Parce que dans la tragédie, il y a aussi un dossier qui peut relever du fait divers.
Déjà quand j'étais moutard, rempli de malice, je refusais furibard le sein de ma nourrice. Oh quelle horreur, ça sentait le beurre, j'aimais mieux le précepteur. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, 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 c'est pas gentil. C'est qu'elles font trop de drames et de chichi. Elles font aussi des filles, c'est pourquoi j'ai une préférence inaltérable en amitié pour tous mes semblables. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, 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 c'est pas gentil. On s'amuse tellement plus quand on est entre hommes. Tous les plaisirs de Vénus, moi cela m'assomme. A priori, j'aime quand on rit avec des bons amis. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, 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 c'est pas gentil. C'est qu'elles font trop de drames et de chichi. Elles font aussi des filles, c'est pourquoi j'ai une préférence inaltérable en amitié pour tous mes semblables. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, 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 c'est pas gentil.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Pomrat a été tué en novembre 1938 par Herschel, autant dire Henri Greenspan. Votre livre, Corinne Champenière, est consacré aux coulisses de La Nuit de Cristal. Il est publié par les éditions Albin Michel. Alors, je vois que vous aimez beaucoup cette chanson de Dranem. Si vous aimez les chansons de ce genre, il y a tout un album, chanson interlope, édité par Martin Penet, qui vous fera couler quantité de morceaux du même tonneau. Ben oui, Vom Rat. Ne l'aurait-on pas surnommé l'ambassadrice?
Oui.
Notre-Dame de Paris?
Oui.
Trois points d'interrogation.
On n'a pas de document écrit sur ces surnoms qu'on lui a donnés. Ce qu'on sait en revanche, c'est que dès le mois de décembre 1938, Maria van Rijsselberg, qui est la voisine de palier et très chère amie d'André Gide, note dans ses carnets...
Les cahiers de la petite dame,
qui ont été publiés tout à fait sous le nom des cahiers de la petite dame. Elle note dans ses carnets que Jean Schlumberger est arrivé la veille pour raconter une histoire hallucinante. C'est que l'assassinat du diplomate allemand serait le résultat d'une histoire privée de nature homosexuelle. Donc la rumeur courait déjà dans les semaines qui suivaient l'attentat.
Et Moreau-Gaffery, l'avocat.
Sans doute, Moreau-Gaffery s'en est emparé.
De Greenspan lui aurait peut-être conseillé dans une de ses rares visites.
Voilà, il lui a certainement suggéré.
Non pas de jouer sur ce fait, mais d'en faire un argument.
Exactement, il lui a proposé de transformer ce que Greenspan tenait absolument à faire valoir comme un acte politique, de le transformer en une vengeance personnelle. Ce que Greenspan a refusé, étant donné qu'il ne voulait surtout pas, en effet, transformer son acte.
Dites-moi, vous parlez de documents écrits. Alors, vous avez pris le parti, à tort ou à raison, de ne pas mettre en note les cotes des archives.
Oui.
Mais vous avez travaillé sur les archives. Sauf que beaucoup de ces archives, confisquées par les Allemands en 1940 ou 1941, y compris les archives de Maître Maurice Garçon, l'avocat de la partie civile, elles sont maintenant à Berlin ou évaporées. Mais vous avez travaillé là-dessus.
Oui, j'ai le gros des archives françaises sont à Berlin. J'ai travaillé sur toutes les archives des ministères, des trois ministères concernés, à savoir justice, affaires étrangères et propagande, bien sûr, qui sont à Berlin. Mais j'ai trouvé également dans ces dossiers, en particulier dans les dossiers de la propagande, énormément de sources françaises, étant donné que absolument tout avait été confisqué, y compris les archives de Moreau-Gaffery, les archives de la police. J'ai trouvé un dossier de la police encore à Paris, qui était les mains courantes, et en particulier alors un dossier extrêmement précieux, qui a été très peu vu, qui est la première, toute première déposition manuscrite de Herschel Greenspan le 7 novembre.
Qui change parfois d'avis au fur et à mesure qu'avance la déposition. Non mais je vous pose la question parce que ce que vous allez dire va peut-être paraître extravagant. En même temps, on vient de trouver qu'il y avait un dossier secret de caractère homosexuel dans l'affaire Dreyfus. Esterhazy, le traître, serait aussi un pédéraste, comme on disait à l'époque. Alors, Vomrat, on a quand même quelques raisons vraisemblables de penser qu'il fréquentait les milieux interlopes.
Semble-t-il que la rumeur, en tout cas, courait sur lui dans les ministères. Et il y a également le témoignage assez troublant d'une médecin allemande qui dit qu'elle a soigné Vomrat dans les années vraisemblablement 35 ou 36 pour une maladie qui serait une maladie typiquement homosexuelle.
Il y a aussi cet argument assez étonnant, son frère l'est aussi, alors pourquoi pas lui ?
Oui, mais
c'est assez drôle, ça.
Oui, ça c'est un drôle d'argument, je trouve.
C'est embêtant pour les nazis qui veulent organiser un procès à grand spectacle. Ils l'ont même programmé pour mai 1942, afin de montrer au monde entier que c'était les juifs qui avaient tiré les premiers. Si Vomrat ne peut plus être un martyr, parce que s'il est homosexuel, c'est très fâcheux.
Oui, c'est extrêmement curieux qu'il n'ait pas appris avant, parce qu'en effet, les Allemands décident de faire un énorme procès de propagande sitôt qu'ils ont récupéré en été 40 Herschel Greenspan. Ils organisent immédiatement, ils mettent en place toute une procédure pour vraiment organiser un énorme procès de propagande pour prouver non seulement que les Juifs sont responsables de la Nuit de Cristal indirectement, mais qu'ils sont également responsables du déclenchement de la Deuxième Guerre. C'est ça qu'ils vont tenter de prouver avec Herschel Greenspan. Et évidemment, au moment où Herschel Greenspan lui-même dit à la personne de la Gestapo qui l'interroge que c'est une affaire homosexuelle, évidemment qu'il jette un petit caillou dans les rouages.
Votre hypothèse, c'est qu'il s'est résolu à dire ça parce que, oui, c'était un sacré caillou qui risquait d'arrêter la mécanique du procès.
Oui, et ça réussit.
Alors, il est traité, peut-être correctement. Il y a un indique dans sa cellule. L'indique dit que Greenspan écrit des textes dans une langue bizarre, peut-être l'hébreu ou peut-être un code, qu'il glisse dans la doublure de sa veste. Et ici, on est toujours dans le téléfilm de Calmette et Badinter. Voilà comment réagissent de plus en plus embarrassés. D'abord un capitaine SS, Hans Jagusch, et puis ensuite on entendra le ministre de la Propagande lui-même, Goebbels.
Ernst Vomrat ist ein Nationalheld.
Ernst Vomrat, c'est un héros national, mort en martyr pour le Reich.
Nun ein delikater Punkt.
Un point délicat. Greenspan prétend avoir eu des relations homosexuelles avec Vomrat. Ce serait un crime passionnel.
Das Motiv für das Verbrechen wäre demnach Leidenschaft.
Ce Greenspan écrit des lettres cryptées. L'heure du chiffrage nous dira si c'est vrai. C'est sûr, mais ce Greenspan est plutôt habile. Nous n'arrivons pas à décrypter ces bouts de papier. Je crois que nous avons intérêt à transmettre ces nouveaux éléments à Goebbels. Il verra, avec le Führer, s'il faut repousser le procès Greenspan.
Herein!
Ein Telegramm?
Nun möchte ich eilends die Bestätigung haben.
Je voudrais avoir une confirmation urgente. Le Führer, quand il a accepté que le procès se déroule sous les yeux du monde entier, savait-il que Greenspan, pour se défendre, prétendrait avoir eu des relations homosexuelles avec von Rath?
Alors on l'imagine, le ballet de contradictions, le nazisme c'est toujours polycentrique. Alors vous décrivez très bien Corinne Chaponnière, le ministère des Affaires étrangères qui a un point de vue, le ministère de la Justice, si on peut appeler ça la justice, qui a un point de vue, le ministère de la Propagande qui a un point de vue, quel va être le point de vue arbitral d'Hitler ?
Oui, c'est. J'avoue que cette affaire est absolument. Cet aspect de l'affaire est incroyable parce que Herschel Greenspan annonce la thèse de l'homosexualité en 1940 et apparemment ça vient aux oreilles des autorités seulement 2 ans plus tard, en 1942. C'est vous dire à quel point ils ont peur de le dire. Ceux qui le savent le gardent pour eux simplement parce qu'ils ont trop peur d'annoncer à Goebbels et puis à Hitler. Quelle est la ligne de défense de Herschel Greenspan ?
Il n'y aura pas de procès. Ce qu'on comprend mal, encore, c'est pourquoi les Allemands, ensuite, l'ont conservé en vie. Parce que d'après vous, un certain nombre de témoignages l'indiquent, il aurait survécu jusqu'en 44 ou 45. Eichmann, à son procès, a dit se souvenir vaguement d'avoir fait monter, peut-être fin 43, début 44... Greenspan dans son bureau pour voir à quoi il ressemblait. Il ressemblait encore à un gamin, dit Eichmann.
Oui, en effet, Greenspan était très petit et avait l'air extrêmement jeune, même quand il en avait déjà 23 ou 24 ans. Mais un témoin dont j'ai vraiment vérifié toute la correspondance ensuite dit l'avoir vu en janvier 45 et je pense vraiment tout indique que c'est vrai dans un camp de concentration du nord de l'Allemagne.
Au procès, Eichmann, le père de Greenspan, qui avait finalement pu gagner Israël, était présent. Et puis aussi son frère, Mardochée, qu'on entend ici témoigner un peu plus tard dans un film signé Roger Benamou de 1978.
Je me suis beaucoup occupé de la recherche des traces de mon frère après la guerre. J'ai vécu un an à Paris où j'ai vu de très nombreux services qui pouvaient m'aider dans mes recherches et qui n'ont pas pu me donner le moindre espoir. Je peux ajouter que j'ai vu aussi à Paris l'avocat Isidore Frenkel, qui a appartenu à un comité pour la défense d'Herschel. Et qui lui aussi m'a dit qu'il ne l'a plus jamais retrouvé. Et vous êtes donc certain qu'il n'est plus en vie ? S'il était encore vivant, il ne fait pas de doute qu'il nous aurait écrit, qu'il se serait adressé à son père qui vient de mourir.
C'est un destin suffisamment inouï, Corinne Chaponnière, dont je rappelle que chez Albin Michel, vous avez publié Les 4 coups de la nuit de Cristal pour qu'il n'y ait pas besoin de survivalisme. Vous savez, c'est le mot qu'on utilise en France pour désigner la croyance en la réincarnation de Louis XVII.
Oui, ça n'a pas manqué, évidemment, avec Herschel Greenspan. Comme on ne savait pas sa fin, toutes les hypothèses étaient ouvertes, mais je crois vraiment que son frère dit la vérité.
Merci à vous. Je vous convierai volontiers, mais vous habitez à Genève, à notre prochain rendez-vous au Vieux Colombier. Alors, j'annonce que les locations sont ouvertes. Un numéro français, 01 44 58 15 15. 01 44 58 15 15. Ce rendez-vous, c'est le 8 février à 20h dans le 6e arrondissement de Paris avec deux thèmes, mai 40, 1840, le retour des cendres de Napoléon, 28 janvier 1891, la révolution est un bloc, disait Georges Clémenceau dans une séance de grande tenue. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Hélène Caneculesco, Clara Garzone, avec la technique Jean-Noël Vélin, et la réalisation, c'était Jacques Sigal. Vous avez un peu de temps pour vous étendre, cher Mathieu Vidard.
Oh, ben je vais le prendre.
Raconter de quoi vous nous parlez. Souvent, il y a des auditeurs qui m'écrivent en disant que la marche de l'histoire, c'est favorable pour la sieste.
Oui.
Et vous, vous prenez le risque de parler?
Mais oui, du sommeil, justement. Vous saviez que Napoléon dormait peu, évidemment, Jean.
Hein. Ah, bah, bien sûr, oui, c'était un génie. Et Staline non plus, dont les fenêtres étaient toujours allumées la nuit durant. Qu'est-ce que le sommeil? Comment la médecine parvient-elle à l'explorer?
Et dormir sans médicaments, de préférence.
Oui. Bah oui, bien sûr, c'est comme pour la boisson. Patrick Lemoine est votre invité. Et nous, nous aurons demain comme invité Gérard Noiriel qui nous racontera comment il a passé 2 ans de sa vie, 3 ans de sa vie, 7 ans de sa vie avec chocolat jusqu'à la sortie du film dont vous savez qu'il est sur les écrans la semaine prochaine. Il est 14h, vous écoutez France Inter.